paraissez troublé, mon fils, comme si quelque chose vous faisait peur. Reprenez-vous, monsieur. Notre fête est finie. Nos acteurs, des esprits, vous avais-je dit, se sont évaporés dans l'air, l'air si léger. Et comme cette vision qui est sans substance, nos tours aussi, couronnées de nuées, nos palais somptueux, nos temples augustes, et même ce vaste globe et ceux qui y vivent, tout se dissipera sans laisser au ciel une ride. Oui, comme a disparu cette ombre de spectacle. Nous sommes de l'étoffe dont les songes sont faits. Notre petite vie est au creux d'un sommeil. Mon ami, je m'égare, pardonnez-moi. Mon cerveau a vieilli, quelque chose le trouble. Mais ne prenez pas garde à cette défaillance. Plutôt, s'il vous agrée, allez vous reposer dans mon logis, tandis que moi je marcherai un peu pour apaiser mon cerveau qui bat la chamade.
Nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Yves Bonnefoy, dont tout le monde connaît l'œuvre considérable dans de nombreux domaines d'ailleurs. Bien sûr, il y a d'abord la poésie, il y a les essais critiques, il y a la réflexion esthétique et philosophique, il y a la réflexion aussi sur la traduction. Il y a ses livres sur Shakespeare, il vient encore récemment de le recueillir dans la collection Tell, une série d'études majeures sur Shakespeare. Et puis, il nous a fait l'honneur de donner pour Folio Théâtre et Folio Classique 8 pièces sur Ferreur, qu'il a lui-même traduites et présentées, dont évidemment une œuvre majeure et une des plus difficiles, certainement, à tout point de vue. Difficile à traduire, certes, mais aussi difficile à comprendre, et qui est La Tempête. Les textes seront lus et l'ont été déjà un petit peu par Martin Juvenet du Pacha, que vous connaissez déjà, et que je remercie de nous être fidèles. Yves, puis-je vous demander de vous dire quelques mots sur la place de La Tempête dans l'œuvre de Shakespeare, et peut-être même un très bref résumé de son action?
Je pense qu'il faudrait commencer par le résumé de l'action, car une idée de ce qui se passe dans cette œuvre explique le mouvement même de la carrière de Shakespeare, étant donné que cette pièce est la dernière. La Tempête, en fait tout le monde ici, je suppose, connaît assez bien cette œuvre. Tout de même, quelques mots, le duc de Milan a été dépossédé de son pouvoir par son frère. Il a été mis dans une embarcation fragile, il s'est retrouvé, disons miraculeusement, sur les rivages d'une île presque déserte. Il va vivre là avec sa fille, qu'il avait pu emporter avec lui. Il va vivre là pendant une douzaine d'années, et puis un jour, voici que passe à proximité, ce n'est tout de même d'ailleurs pas un hasard, ce sont ses pouvoirs magiques qui l'ont voulu, tout ce petit monde dont il avait à se plaindre, son frère, le prince de Naples qui en avait été le complice, Ferdinand, le fils de ce prince de Naples sur lequel il a dévisé, et une tempête magique fait que tous ces êtres se retrouvent dans l'île, intacte d'ailleurs, et tout de même sous le pouvoir de Prospero, donc le duc déposé, devenu un magicien à plein temps, si j'ose dire. Et voilà donc que l'action a lieu. Il y a dans l'île un certain Caliban qui représente en quelque sorte le monde naturel, le monde encore sauvage que Prospero essaye de maîtriser. Et débarque Trinculo et comment il s'appelle l'autre, le complice
Stéphano.
Oui, qui vont essayer, vilains comme ils sont, de déposséder Prospero, ce que tentent d'ailleurs de faire aussi quelques-uns des débarqués venant de Naples. Et heureusement, Prospero contrôle tout cela avec les moyens de sa magie et il s'arrange pour l'heureuse conclusion de la pièce, apparemment heureuse, disons, de marier sa fille Miranda avec le jeune prince de Naples et de pardonner superbement à tous ceux qui l'avaient offensé et qui l'avaient conduit sur ce rivage. Après quoi, tout le monde repart et Prospero aussi avec eux, qui nous dit dans la conclusion de la pièce qu'il renonce à ses ambitions magiques et à ses pouvoirs pour devenir un être comme les autres, n'ayant à chercher que le pardon du ciel. Voilà donc cette pièce, et tout de suite vous remarquez qu'elle est caractérisée par en fait deux théâtres. D'une part, celui que Shakespeare nous propose, l'œuvre qu'il écrit, mais d'autre part aussi ce théâtre que Prospero lui-même met en scène en faisant débarquer dans son île des personnages qu'il va contrôler, qu'il va manœuvrer, qui vont devenir donc comme les acteurs d'une pièce qu'il joue, pièce dont la conclusion doit être, comme si souvent, le mariage, un mariage de Miranda et donc de Ferdinand. Une pièce et une autre pièce, et à mes yeux, et c'est là le sens de ce que je voudrais vous dire pour commencer, l'observation du théâtre de Prospero par le théâtre de Shakespeare, et cela d'une façon beaucoup plus critique, me semble-t-il, que l'on a tendance de le vouloir. En effet, qu'est-ce qu'a été le théâtre de Shakespeare? Que fut la carrière de Shakespeare jusqu'alors? Il arrive au moment de ses premiers travaux dans une société où le vieux théâtre religieux des mystères entre dans son crépuscule, où apparaît un théâtre de la société, celui qui illustrera bientôt Ben Jonson, l'ami et le rival de Shakespeare, ce théâtre dans lequel on observe la société réelle. Et d'ailleurs, au moment où Shakespeare écrit La Tempête, Ben Jonson écrit The Alchemist, l'alchimiste, une œuvre dans laquelle la magie est aussi le sujet de la réflexion. Sauf que c'est donc d'un point de vue satirique, d'un point de vue social, par le dehors des mages, et non pas, comme c'est le cas dans l'œuvre de Shakespeare, par le dedans de leur motivation. Dans le travail de Shakespeare, il y a donc dès le début une sorte d'affrontement avec un théâtre social, et lui, au contraire, écrivant ses chroniques, parlant de l'histoire de l'Angleterre, rencontrant de grandes ambitions effrénées, des passions tumultueuses, reste plus près d'une existence immédiatement vécue qui s'enracine tout de même mieux, me semble-t-il, dans la tradition religieuse que dans une sociologie de nouvelle sorte. Et d'emblée, voilà, Shakespeare, me semble-t-il, se pose une question sur la nature essentielle du théâtre. À quel niveau de l'être humain doit-il situer son regard? Doit-il parler des événements de la société ou de ceux de l'existence propre et profonde des êtres? Cette question, il se la pose au moment où, bizarrement, apparaît sur la scène anglaise, cette vogue étrange et très forte des sonnets dans les années 90 du XVIe siècle. Voilà que tout le monde écrit des sonnets, de grands poètes d'ailleurs comme Spenser ou Sidney, mais aussi beaucoup d'autres, et Shakespeare se pose une question. Il se dit voilà ce que l'on appelle la poésie, en fait ce sont des formes régulières qui au moyen de stéréotypes qui découlent de ces formes closes, nous donnent de la scène humaine une représentation simplifiée et peut-être erronée et peut-être dangereuse. Mon sentiment, à moi, c'est qu'il écrit ses propres sonnets pour vérifier de l'intérieur que la forme fixe, que la forme donc du sonnet est mauvaise conseillère, s'il s'agit de comprendre les profondeurs de l'âme humaine, et ayant écrit ses sonnets, il est en mesure d'abord de réfléchir sur cette aliénation dans une œuvre comme Roméo et Juliette, où un sonnettiste Roméo entraîne dans la mort une femme, Juliette. Et puis alors, dans cette prise de conscience, commence le second souffle de son œuvre, son grand théâtre dans lequel, utilisant une parole spécifiquement et profondément poétique, il peut bouleverser les catégories de l'approche des êtres dans la société. C'est un théâtre nourri par la poésie qui nous donnera d'abord Hamlet, grande question sans réponse, puis toutes les autres grandes pièces que vous connaissez, Macbeth, Othello, Antoine et Cléopâtre, Le Conte d'Hiver et La Tempête. Le Conte d'Hiver, c'est l'œuvre dans laquelle Shakespeare me semble avoir compris ce que la poésie au théâtre doit être. Il y a là ceux qui transgressent, comme la poésie le fait, les représentations stéréotypées qui paralysent la société. Et dans cette transgression apparaît une liberté de la personne, une liberté de l'immédiat qui fait que, spontanément, le jeune homme peut rencontrer et retrouver la jeune fille et créer avec elle un monde fondé sur l'amour. Si bien que les paralysies qui avaient été souffertes dans la société antérieure, par exemple la jalousie de Léonte qui avait conduit sa femme Hermione au confinement, tout cela s'évapore, une sorte d'unité revécue prévaut dans la société grâce à la parole de poésie dissolvant les contradictions du théâtre. Tout cela, je l'ai évoqué trop brièvement tout de même pour vous dire que La Tempête apparaît à ce moment-là dans l'œuvre et n'est peut-être pas sans articulations fortes avec cette problématique que je viens d'évoquer. Qu'y a-t-il dans La Tempête ? Eh bien, un mage. Or, qu'est-ce que c'est qu'un mage ? C'est celui qui, à l'époque, exerçait la magie blanche, c'est-à-dire sous le signe du ciel, mais avec une intellection, dirais-je, des analogies. C'est par une prise de conscience des réalités essentielles et des analogies qui existent entre elles que le mage essaye d'élever son âme, c'est ce qu'il appelle le bettering of his soul, et d'autre part essaye d'entraîner avec lui les autres êtres de la société. Mais en somme, ce qui apparaît dans cette magie, ce sont les structures d'un intelligible. Il y a quelque chose de platonicien, et d'ailleurs c'est la tradition du néoplatonisme qui innerve les travaux de ces mages. Et voilà donc que quelqu'un, cet être, le mage, le magicien, qui, tourné vers les faits et les êtres et les objets de la société, reconstruit cela comme on peut le faire dans une pensée conceptuelle, une pensée fondée sur les représentations, une pensée des structures, des essences. Or, dans toutes ces façons d'approcher les choses et les êtres, ce qui s'évapore, c'est le temps vécu, c'est le rapport à soi des personnes sous le signe du temps qui est irréversible, qui ne pardonne pas. C'est donc l'intensité possible entre les êtres dans leur moment d'existence commune qui disparaît. En fait, ce qui échappe à la pensée de Prospero, ce qui se perd dans sa tentative de bettering, de sublimation, de recherche de l'absolu, eh bien, ce qui disparaît, c'est l'amour, tout simplement. L'amour comme il existe entre des êtres dans chacun sa situation de finitude. Et nous allons voir, tout à l'heure on y reviendra, que le travail de Shakespeare dans La Tempête, c'est d'observer avec un esprit critique les démarches de Prospero, de mettre l'accent sur ses contradictions et de travailler sur le projet de Prospero par un autre qui aboutira à une conclusion, disons, mitigée. Nous verrons cela. Je m'arrête parce que le temps presse.
Nous allons entrer plus avant dans la connaissance des personnages en écoutant d'abord une scène entre Prospero, donc du demi-lan chassé de son trône et réfugié dans l'île depuis 13 ans, et de sa fille Miranda.
Donc il s'agit de la deuxième scène de la pièce, la première scène étant consacrée à la scène du naufrage du bateau et la tempête vue du point de vue de l'équipage. Et donc là, on a la tempête du point de vue du rivage, tout simplement. Si c'est vous, très cher père, si c'est votre art qui faites retentir dans l'eau furibonde cette immense clameur, apaisez-la. On croirait que le ciel ferait pleuvoir sa poix infecte sur nous si les grandes vagues n'escaladaient sa face dans les nuées pour en noyer le feu. Ah, que j'ai souffert avec ceux que j'ai vus souffrir. Ce hardi vaisseau qui portait sûrement quelque être noble, tout fracassé. Ce cri qui m'a frappé au cœur. Pauvres âmes, péris. Eussé-je été un dieu de quelque puissance, j'aurais fait que la mer s'abîmât sous terre avant qu'elle n'engouffre ce fier vaisseau et avec lui toute sa charge d'âmes. Calme-toi. Je n'ai rien fait que pour toi et ton bien. Toi, ma très chère, toi, ma fille, mais qui ne sais encore qui tu es ni d'où je viens, et que je suis tout autre que Prospero, le maître de cette misérable petite hutte, et ton père, certes, mais rien de plus. L'idée d'en savoir davantage n'a jamais troublé ma pensée. C'est pourtant le moment que je t'informe de beaucoup plus. Essuie tes yeux, console-toi, car l'horrible spectacle de ce naufrage qui éveilla ta compassion si vertueuse, mon art, ma clairvoyance l'ont réglé si précautionneusement que pas une âme n'en a pâti, et que sur ce vaisseau où l'on criait si fort et que tu vis sombrer, personne n'a perdu pas même un cheveu. Assieds-toi là. Il faut que maintenant tu en saches plus. C'est bien souvent que vous avez commencé à me dire qui je suis, mais vous vous arrêtez, me laissant à de vaines conjectures. Pas encore, décidez-vous, restons-en là. Voici l'heure venue. Il y a 12 ans, Miranda, 12 ans, ton père était encore duc de Milan, c'est-à-dire un grand prince. N'êtes-vous pas mon père ? Ta mère était la vertu même, et elle m'assura que tu étais ma fille. Mais c'est moi, ton père, qui étais le duc de Milan, et toi, mon héritière, est bien la seule. Tu en es donc princesse, rien de moins. Ciel, quel mauvais coup du sort nous en a chassés, ou plutôt quelle bénédiction nous a préservés. Il y eut de l'un et de l'autre, mon enfant. Le mauvais coup, comme tu dis, nous a fait partir, mais la bénédiction, ce fut cette île. Oh, mon cœur saigne de penser aux soucis que j'ai dû vous être et que je ne sais plus. Je vous en prie, ensuite. Je continue. Mon frère, autrement dit ton oncle, son nom Antonio, ah, je t'en prie, écoute. Peux-tu croire qu'un frère soit si perfide ? Lui que j'aimais après toi plus que tout au monde, à qui j'avais confié la charge d'un état qui, à l'époque, était la seigneurie la plus puissante, Prospero étant le tout premier d'entre les ducs pour la noblesse, autant que sans rival dans les arts libéraux. Certes, c'était ceci mon unique pensée. Mon frère gouvernait, moi, requis, absorbé par les sciences occultes, j'en étais devenu étranger aux affaires. Et ton oncle alors, ce félon, m'écoutes-tu ? Je suis tout oreille, messire. Ton oncle, quand un jour il fut passé maître dans l'art de satisfaire ou de rejeter les requêtes, favorisant un tel, empêchant tel autre de se pousser trop haut, eh bien, il fit sien mes hommes. Il les changea. Il en fit d'autres êtres. Il eut la clé du clair comme du bureau. Il fit de tous les cœurs, partout dans l'état, les cordes de sa musique. Bref, il devint le lierre qui couvrit mon tronc princier et en tarit la sève. Tu ne m'écoutes pas. Oh, si, mon cher seigneur. Fais bien attention, je te prie. Comme je négligeais les choses du monde, tout à cette retraite dont j'attendais le perfectionnement de mon esprit, par cette science qui, d'être trop secrète, passe certes l'entendement des gens du commun, j'éveillais dans mon frère, ce déloyal, sa mauvaise nature. Ma confiance même, comme celle d'un trop bon père, fit naître en lui, en sens inverse, une traîtrise égale à cette foi qui n'avait pas de borne. Hélas, non, pas de borne. Et lui, le maître ainsi de tout, prérogative, revenu, et qui mentait si bien qu'à force de mentir, il corrompit sa mémoire elle-même, qu'il assura qu'était vrai son mensonge, lui, donc, ne douta plus qu'il était le duc, dont il avait les dehors, le pouvoir, et ambitieusement, de plus en plus, m'entends-tu bien ? Sire, votre récit guérirait les sourds. de plus en plus pensa que pour que ne reste aucun écart entre lui, l'acteur, et le rôle, il lui fallait être Milan lui-même. Oui, tout à fait. Pendant qu'à moi, pauvre homme, mes livres me suffiraient bien comme duché. Et de toute façon, j'étais devenu bien incapable, non, d'exercer le pouvoir. Le voici si avide de régner qu'il lie parti avec le roi de Naples. Il lui promet un tribut chaque année, et de lui rendre hommage, et d'assujettir sa petite couronne à celle d'un roi. Il voue, pauvre Milan, le duché encore invaincu, à la prosternation la plus humiliante. Médite cet accord et ses conséquences, et dis-moi si un homme de cette sorte peut se dire mon frère. Oh, ce serait péché que de ne pas avoir confiance en ma grand-mère. Des flancs vertueux ont engendré d'indignes fils. Oui, mais l'accord, écoute. Le roi de Naples, mon ennemi invétéré, ne put que prêter l'oreille à la requête de mon frère, qui demandait qu'en échange de l'allégeance et du tribut dont je ne sais le montant, il me privât, moi et ma descendance, et sur le champ, de tout droit au titre de duc. Et à lui, mon frère, remit Milan la belle et tous les honneurs. Une troupe félonne est donc bientôt rassemblée, à laquelle, une nuit bien faite pour ce crime, Antonio a ouvert, oui, a ouvert, les portes de Milan. Et des hommes de main nous emportent en hâte dans les ténèbres, moi et toi tout en pleurs. Miséricorde, je ne me souviens pas de mes larmes, mais maintenant j'en verserai d'autres, tant ces événements déchirent mes yeux. Écoute un peu encore, puis je t'avertirai des choses d'à présent. C'est aujourd'hui sans lequel cette histoire serait hors de propos. Mais comment se fait-il qu'on ne nous ait pas tués cette nuit-là? Bonne question, ma fille. Mon récit y incite, c'est sûr. Ils n'osèrent pas, mon aimé. Mon peuple m'aimait trop. Ils se gardèrent de teindre leurs méfaits de sang. Ils voulurent peindre un horrible projet de belles couleurs. Bref, ils nous ont jetés dans une barque et conduits à des lieux au large, où attendait par leurs soins un rafio, coque pourri, sans voilure, sans mât, et que les rats même avaient abandonné d'instinct. Là, ils nous laissèrent à pleurer dans la mer, qui, en retour, nous hurlait ses clameurs, à gémir dans les vents, dont la pitié c'était de gémir d'eux-mêmes, mais sans trop nous secouer, comme avec amour. Las, quelle gêne je dus être pour vous. Tu fus un ange, c'est toi qui me sauvas. Tu souriais, forte d'une assurance venue des cieux, alors que moi j'agrémentais la mer d'un supplément de sel avec les larmes que mon fardeau m'arrachait. C'est toi qui me mis cœur au ventre, qui me donna l'énergie d'affronter ce qui allait suivre. Comment nous sommes-nous retrouvés à terre? Par le divin effet de la Providence. Nous avions quelque nourriture, un peu d'eau douce, que Gonzalo, un noble napolitain qu'on avait désigné pour mener l'affaire, nous donna, par pitié, leur ajoutant même de riches vêtements, du linge et d'autres choses bien utiles et qui nous furent d'un grand secours. Par gentillesse encore, et sachant à quel point j'aimais mes livres, il m'en fournit de ma bibliothèque, certain que je place plus haut que mon duché. Puissais-je un jour voir de mes yeux cet homme? Nous sommes arrivés ici, dans cette île, et ici je t'ai, moi, ton maître d'école, enseigné plus que n'ont chance d'apprendre d'autres princesses, qui ont plus d'occasion de perdre leur temps, et des instituteurs de moins de zèle. Que le ciel vous en récompense. Mais je vous prie, dites-moi, car j'en suis encore toute secouée, pourquoi vous avez provoqué cette tempête? Sache seulement, pour l'instant, que par un de ces coups des plus étranges, la fortune prodigue maintenant de ses faveurs, jette mes ennemis sur ce rivage. Et que cela, c'est au moment même où ma science prévoit que mon zénith est visité d'une certaine étoile très propice, dont il faut que j'accueille le bon influx sans attendre. Sinon, ma destinée entrerait en déclin et pour toujours. Mais cesse maintenant de me questionner. Tu as sommeil. Tu dois t'abandonner à cette bonne torpeur, Miranda. Et d'ailleurs, tu n'as pas d'autre choix. Miranda s'endort.
Donc, c'est un magnifique exemple de de la psychologie shakespearienne que cette manifestation de Prospero qui, sous couleur de raconter un roman d'aventure, montre le nombre de traits de son caractère qui sont étranges.
Oui, en effet, nous voyons d'emblée que les choses ne sont pas si simples qu'on ne pourrait croire. D'abord, Prospero semble informer sa fille, et donc très naturellement, il devrait attendre d'elle des réponses. Mais en fait, le mage qui est en lui travaille sur la conscience de cette jeune fille. À un moment donné, il va l'endormir, et dès le début, il l'hypnotise, faisant d'elle le réceptacle d'une pensée beaucoup plus qu'un véritable interlocuteur. On remarquera d'ailleurs qu'il n'y a pas de mère pour Perdita, comme si elle était née d'une façon, en somme, miraculeuse. Et d'ailleurs, cette traversée de l'océan dans la tempête, avec une barque qui est secouée, c'est un peu comme si un accouchement d'une autre nature se produisait avec, comme mère, comme géniteur, le père. C'est tout à fait dans l'esprit de cette magie platonicienne qui veut en fait que un esprit pur contrôle la réalité et que les femmes n'y ont pas de place. C'est le moment de remarquer que dans cette île, la seule figure féminine qui aurait pu exister, c'est celle de Sycorax, la mère de Caliban, une atroce sorcière qui tend à identifier le principe féminin et le mal. Bref, Prospero travaille sur la conscience de Miranda, il la réduit à une écoute dans laquelle la différence féminine, la revendication féminine ne se produira pas. La suite des événements, d'ailleurs, montrant bien que Prospero entend marier sa fille, comme tous les nobles de ce temps mariaient leur fille, c'est-à-dire pour servir leurs intérêts de pouvoir. Pendant que Prospero parle avec Miranda, il revêt ses attributs de magicien. Nous le voyons donc, en quelque sorte, ici, le maître et non pas l'interlocuteur, et on voit aussi apparaître de façon mineure, bien sûr, mais significative, ses impatiences, sa colère même. Ce n'est pas un père, si j'ose dire, bienveillant, c'est un maître sévère. Voilà, peut-être pouvons-nous enchaîner vers autre chose qui nous montrera la suite des aspects de ce caractère de Prospero.
On notera en passant qu'il est surprenant de voir cet homme si pénétrant, s'étonner d'être renversé alors qu'il ne s'occupe pas des affaires de l'État. Oui. Il avoue lui-même s'en être complètement désintéressé et s'étonner après de l'ascension, d'ailleurs très habile, de son frère.
Et remarquons aussi que cet homme qui cherche le détachement et le progrès de l'âme reste obsédé par le fait de son frère, par la colère qu'il n'a pas cessé d'éprouver à son égard. De ce point de vue-là, il reste bien plus humain qu'il ne voudrait le croire.
Est-ce qu'on se tromperait en disant que c'est un problème qu'on rencontre souvent dans le théâtre de Shakespeare, que deux frères, ou alors il y a un frère et un beau-frère, en conflit grave?
Deux frères, ou un frère ou un beau-frère, ou deux amis très proches, qui, par exemple, dans le conte d'hiver, ont vécu leur enfance en commun. Le roi de Bohême et le roi de Sicile vivent au début de la pièce le souvenir d'une enfance dans laquelle ils étaient comme deux agneaux jouant ensemble. Et ce que vous dites là, cette importance des frères dans le théâtre de Shakespeare a donc aussi cette valeur de ressourcement éventuel dans une innocence originelle. Bon, ça fait partie d'une problématique shakespearienne évidemment très complexe.
Donc nous allons aller plus avant dans la présentation des personnages de la pièce en écoutant la scène que vous allez entendre et qui met en scène le personnage que nous n'avons pas encore vu, ce personnage monstrueux et d'ailleurs légendaire, puisqu'on évoque souvent la tempête en citant des personnages. On parle d'Ariel, de Prospero ou de Caliban, sans très bien savoir où ils se trouvent et ce qu'ils ont fait exactement. Et voici donc Caliban et dans une scène importante de la pièce.
Prospero, toi, poison d'esclave, que le diable lui-même a conçu dans ta malfaisante mère, sors de là. Entre Caliban. Malfaisante d'abord soit la rosée qui vous salisse tous deux. La rosée la pire que ma mère ait jamais raclée avec sa plume de corbeau dans un marécage infect. Que le vent des sables vous couvre de pustules par tout le corps. Pour ces paroles, tu auras cette nuit des crampes, n'en doute pas, et des points de côté à t'en couper le souffle. Des hérissons de fées, dès leur permise, c'est-à-dire à la nuit qui n'en finira plus, s'exerceront sur toi. Ils te cribleront d'autant de trous qu'en ont les rayons de miel, mais par de pires dards que ceux des abeilles. Je dois d'abord dîner. Cette île que tu m'as prise était à moi, de par Sycorax, ma mère. Et à mon arrivée, tu m'as flatté, tu faisais cas de moi, tu me donnais de l'eau avec des baies dedans, tu m'enseignais le nom de la grande lumière et de l'autre moindre qui brûle le jour, la nuit. Et moi, je t'aimais, je te montrais les ressources de l'île, les sources fraîches, les places d'eau salée, les terres grasses et les stériles. Ah, que maudit je sois de l'avoir fait, que tous les charmes de Sycorax, ces crapauds, ces cafards, ces chauves-souris pleuvent sur vous comme la foudre. Car me voici à moi seul votre peuple, moi qui auparavant étais mon propre roi. Et de ce roc dur, vous avez fait ma bauge, gardant pour vous tout le reste de l'île. Aussi menteur que fait pour être esclave, c'est le fouet qui t'émeut, non la bonté. Tout fumier que tu sois, je t'avais traité avec humanité d'abord. Je t'ai logé dans ma hutte, mais vint le jour où tu voulus violer, déshonorer ma fille. Ah ça oui! Quel dommage que tu m'en aies empêché. J'aurais peuplé cette île de Caliban. Miranda, esclave détesté, réfractaire à tout bien, capable du pire, j'avais pitié de toi. Je me donnais beaucoup de mal pour t'apprendre à parler. À tout instant du jour, je t'enseignais une chose ou une autre. Tu ne savais, sauvage que tu étais, pas même ce que tu voulais dire. Tu balbutiais comme une sorte de bête, et tes besoins, je te donnais des mots pour les faire entendre. Mais bien que tu aies su apprendre, c'est un fait, il reste que ta race est vile, avec des instincts dont doivent se garder les bonnes natures. Et c'est pour cela même, et à bon droit, que tu fus confiné dans ce rocher. Tu méritais bien pire qu'une prison. Vous m'avez appris le langage, et tout le profit que j'en ai eu, c'est de savoir maudire. La peste rouge vous emporte pour m'avoir enseigné vos mots. Prospero, décampe, semence de sorcière. Va nous chercher du bois, et assez vite, pour être bientôt prêt pour une autre tâche. Tu rechignes, démon ? Que je te vois traîner ou de mauvais gré faire ce que j'ordonne, et je t'emplis des crampes des vieillards jusqu'au fond des eaux. Tu hurleras de douleur, et les bêtes trembleront de t'entendre. Non, je t'en prie, je dois lui obéir. Son art est si puissant que du dieu de ma mère, Cétébos même, il ferait son vassal. Cela suffit, esclave, tu disparais. Sort Caliban.
Étonnante apparition, qu'est-ce que c'est que ce Caliban ? D'où vient-il ? Et quel rôle va-t-il jouer dans la pièce ?
Prospero l'a trouvé dans l'île quand il y a débarqué. Et comme c'était l'époque où les Anglais débarquaient sur les terres du Nouveau Monde et rencontraient là des Indiens qu'ils étaient prêts à considérer comme des sauvages, il y a toute une école de réflexion critique pour considérer que Caliban et comme tel le représentant de cette humanité supposée inférieure que les Européens rencontraient, si bien que nous serions là en présence d'une réflexion, d'une première ancienne réflexion sur les problèmes du colonialisme. Prospero, c'est le colonisateur, et Caliban, c'est le colonisé, qui réclame d'ailleurs, comme vous l'avez remarqué, l'éducation. Il dit, tu m'avais promis de m'enseigner à lire, de m'instruire, et tu ne l'as pas fait. Nous sommes là en présence déjà d'une des grandes contradictions, d'une des grandes revendications qui domineront ensuite dans l'histoire du colonialisme. Mais cette approche est certainement fondée. Shakespeare a les moyens de faire valoir différentes significations sur différents plans. Tout de même, il y en a une qui me semble beaucoup plus intérieure et qui se situe, déjà dans le rapport avec Miranda, au plan où Prospero exerce sa magie et en rencontre les contradictions intérieures. Tout se passe comme si ce qu'il essayait de refouler, avec violence d'ailleurs, avec cruauté même, et d'une façon qui n'est pas totalement sympathique, ce qu'il essaye de refouler, c'est une nature en lui qu'il n'a pas su dissoudre dans la sagesse supposée en acte de son travail de mage et de spirituel. Nous avons l'impression d'être en présence de l'inconscient de Prospero, quelque chose qu'il tient en échec, qu'il déteste parce qu'il le ressent peut-être comme trop présent en lui. Shakespeare nous fait apparaître ici, et la suite des événements d'ailleurs le montrera, que Prospero est non pas celui qui transmute la réalité, mais celui qui se met en conflit avec certains aspects de celle-ci. Alors nous pouvons remarquer que dans les paroles de Caliban, où foisonne l'insulte, la rancœur, la grossièreté, il y a aussi, et cela sera vrai à travers toute la pièce, les plus belles paroles poétiques dans La Tempête. Caliban, qui se plaint d'avoir reçu de Prospero des mots sans pouvoir apprendre à en faire usage, Caliban emploie les mots d'une façon profondément et spécifiquement poétique. Et cela donne à penser sur ce qui est peut-être la meilleure façon de transmuter ce qu'il y a de matériel, de grossier, dans la personne humaine en qualité poétique. Je garde donc pour l'avenir de notre réflexion cet aspect de la parole de Prospero. Elle vous frappera sans cesse à la lecture de l'œuvre si vous la reprenez.
En écoutant ce dialogue entre un magicien et un monstre, on pense à quelqu'un qui admirait beaucoup Shakespeare et qui reproduira plusieurs fois ces scènes, c'est Wagner. Chez Wagner aussi, on voit Siegfried dompter les monstres avec la plus grande violence et les transformer en pierre, en être.
Mais oui, et par exemple, là, quand Caliban va parler avec le clown et Stefano qui veulent planter un clou dans la tête de Prospero, voici ce qu'il dit, qui est au dos de cette édition en tout cas, et qui est si beau. Caliban dit « Sois sans crainte, l'île est pleine de bruit, de sons et d'air mélodieux qui enchantent et ne font pas de mal. C'est quelquefois comme 1000 instruments qui retentissent ou simplement bourdonnent à mes oreilles. Et d'autres fois, ce sont des voix qui, fussais-je alors à m'éveiller après un long sommeil, m'endorment à nouveau. Et dans mon rêve, je crois que le ciel s'ouvre, que ses richesses vont se répandre en moi. À mon réveil, j'ai bien souvent pleuré, voulant rêver encore. Ça, c'est Caliban qui parle. Et c'est tout de même frappant. Ce n'est certainement pas par hasard, ce n'est pas par hasard que Shakespeare a mis le meilleur de son inspiration dans ce qui semble être le plus rebutant de la distribution de l'œuvre.
Avec en même temps une poésie, une violence de langage incroyable. Est-ce que cette violence d'injure vient de la satire antique, de ces insultes de Caliban à l'adresse de Prospero?
Je ne sais pas. Je pense que dans tout le théâtre de Shakespeare, il y a le besoin. C'est comme si un peintre peignait un tableau avec un premier plan, second, un arrière-plan et des contrastes de valeurs. Il a besoin de faire apparaître une parole violente, une parole forte. Trinculo et Stefano eux-mêmes vont employer des mots de grande violence, grossièreté. Et par exemple aussi dans Roméo et Juliette, il y a toute une valetaille pour se livrer à des jeux de mots plutôt grossiers. Cela fait partie de la mise en relief, me semble-t-il, d'une parole plus élaborée, d'une parole plus éthérée. Ce sont comme des travaux de peintre pour marquer par contraste les valeurs. Ceci étant, votre remarque sur l'origine lointaine, antique de ceci est tout à fait fondée. Hein.
Et nous allons donc progresser dans cette pièce si riche et somme toute si compliquée. Il y a à la fois, on va évoluer vers la reddition des méchants, c'est-à-dire du frère, l'usurpateur de Milan, et de son allié, le roi de Naples, et en même temps, tout cela va être machiné par un personnage qui est l'envers de Caliban, ou son endroit plutôt, c'est Ariel, personnage souvent évoqué que nous allons voir apparaître maintenant, au démon qui est Caliban, au monstre s'oppose l'ange pur et éthéré, mais cependant esclave, ce qui est dans une situation très singulière, comme certains djinns des contes des mille et une nuits et de la littérature orientale. Et nous allons voir maintenant ce personnage d'Ariel dans la scène 3 de l'acte 3.
Oui, il faut peut-être juste avant, je vais rapidement peut-être vous exposer là où on en est de l'intrigue à ce moment-là. Dites-moi, enfin complétez si j'oublie quelque chose. Donc il y a tous les personnages qui sont échoués, qui sont donc le frère, en gros le frère de Prospero et des gentilshommes de la cour, qui sont échoués sur l'île et qui certains complotent donc de venir tuer Prospero. Et donc là, on a une scène absolument théâtrale, enfin de la théâtralité magique de Prospero. Je vous lis juste deux didascalies qui la résument assez bien. Étrange solennelle musique, dans les hauteurs Prospero invisible, entre plusieurs formes singulières qui apportent les éléments d'un banquet. Elle danse autour de la table avec de gracieux saluts, puis se retire après avoir invité le roi et sa compagnie à se nourrir. Donc on a quelques pages d'émerveillement de ces différents personnages qui se voient apporter un banquet sur cette île déserte. Et ensuite, tonnerre éclair, entre Ariel en harpie. Il frappe de ses ailes la table et par l'effet d'une ingénieuse machine, le banquet disparaît. Et Ariel prend la parole ainsi. Vous êtes trois mauvais hommes. Que le destin qui emploie à ses fins le monde et ceux qui y vivent a fait vomir par la mer pourtant insatiable sur cette île où ne vit nul autre être humain. Vous en seriez les voisins trop indignes. Tous tirent leurs épées, mais sont immobilisés par un charme. Folie, votre fureur, que je suscite. C'est avec cette sorte de faux courage que des hommes se pendent ou se noient. Imbéciles. Moi et mes compagnons sommes votre destin. Les éléments dont vos épées furent forgées blesseraient plus vite les ouragans. Leurs bottes ridicules tueraient plus promptement l'eau toujours close qu'ils ne prendraient à mon aile une plume. Et mes amis sont tout autant invulnérables. Puisque, aviez-vous les moyens de frapper? En tout cas, vos épées les voici trop lourdes pour votre peu de force. essayez de les soulever. Ou plutôt, car c'est là ce que j'ai à dire, souvenez-vous. C'est vous trois qui avez évincé de Milan le noble Prospero, l'exposant sur la mer, qui l'a bien vengé, lui et son innocent enfant. Tant les puissances qui sursoient quelquefois mais n'oublient jamais, ont enflammé contre vous la colère des mers et des rivages et de toute vie. Alonso, c'est d'abord ton fils qu'elles t'ont pris. Et maintenant, elles édictent par ma voix la lente dégradation qui, pire que la mort qui, elle, vient tout d'un coup, va tout te prendre et pas à pas te suivre. Malédiction dont tu ne peux te garder dans cette île de toutes les douleurs où sur vos têtes elles risquent de fondre que par la contrition, celle qui naît du chagrin du cœur et d'une vie ensuite tout à fait pure. Il disparaît dans un roulement de tonnerre. Puis, au sein d'une douce musique, reparaissent les formes. Elles dansent avec des gestes de moquerie, des grimaces, et emportent la table. Prospero, tu as tenu ton rôle à la perfection, mon Ariel. Quelle grâce, cette harpie, quand elle a fait table rase. De plus, tu n'as rien négligé de mes instructions dans ton discours. Et avec quel entrain, quel naturel, et quel zèle étonnant, mes moindres ministres ont eux-mêmes rempli leurs tâches respectives. Ma haute science opère, et mes ennemis, tout empêtrés, chacun dans sa folie, sont bien en mon pouvoir. Toutefois, laissons-les pour l'heure à ces accès de leur déraison. Je vais faire visite au jeune Ferdinand, qu'il pense noyé, et à sa bien-aimée, qui m'est si chère.
Il y a là une scène tout à fait étonnante. Le sorcier en chef et son acolyte qui en même temps lance un appel religieux, biblique ou évangélique à la conversion. Et ces personnages d'Ariel, qu'est-ce que vous souhaitez nous en dire ?
Eh bien, il faut se souvenir que dans la pensée élisabéthaine, il y avait deux magies, la magie blanche et la magie noire. Et que la magie blanche n'était nullement en contradictoire avec la pensée chrétienne. Dans une cosmologie avec différents niveaux entre le divin et le terrestre, on imaginait très naturellement des démons, des elfes, des figures invisibles, intermédiaires entre l'être humain et le ciel. Et ces êtres-là étaient plutôt pour aider à comprendre le trésor des analogies, la possibilité donc d'améliorer sa conscience, sa connaissance, et c'était donc tout à fait licite. Une science à pénétrer, à comprendre, qui échappait à l'esprit du commun, comme dit Prospero, mais qui était réelle et tout à fait indiquée, en somme, l'être désireux de progresser. Et en revanche, la magie noire, c'est celle qui ne cherchait pas la connaissance, mais simplement la satisfaction des instincts les plus matériels, les plus grossiers, les plus bas de la personne, et qui faisait appel pour réaliser ses désirs, ses mauvais désirs, à des créatures du diable, du coup, inférieures au monde de Dieu, des êtres relevant de l'enfer et de son voisinage. Cette magie noire, c'est celle de Sycorax, la mère de Caliban, et supposément, ça devrait être ce que Caliban lui-même pourrait trouver naturel. Alors donc, voici Ariel. Qu'est-ce que c'est qui, dans l'esprit humain, permet de réaliser de façon, en somme, immédiate et miraculeuse tout ce que l'on a désiré, fomenté ? Eh bien, c'est l'imagination. L'imagination peut produire des naufrages, des résurrections, des rassemblements, des résolutions. C'est l'imagination qui permet de faire ce que l'acte réel ne peut évidemment pas accomplir. Ariel, que nous voyons sur la scène du théâtre de Prospero, Ariel, bon, nous pouvons considérer que c'est son imagination au travail. Il emploie Ariel comme il emploierait ses facultés imaginatives. Et c'est donc de ce point de vue-là qu'on peut l'opposer à Caliban. Caliban, c'est ce que Prospero ne sait pas de lui-même, ce qui le détermine, mais sans qu'il le sache, sur bien des plans. Et Ariel, c'est ce que Prospero croit pouvoir maîtriser de soi-même, ce qu'il emploie à satisfaire des désirs qui lui paraissent licites. C'est l'imagination consciente par opposition au déterminisme inconscient. Et il y a donc là déjà une mise en place de la grande contradiction qui traverse Prospero. Quand il se confie avec bonheur à Ariel, il ne sait pas l'existence de son inconscient. Il se croit l'être, l'esprit libre qui va pouvoir, corps et âme en somme, remonter vers la suprême sagesse. Ce sont des moments de bonheur qu'il éprouve quand il est avec Ariel, parce qu'il semble pouvoir, il pense pouvoir échapper à des contradictions dont il sait bien tout de même en profondeur qu'elles sont là. Voilà ma lecture d'Ariel, ce n'est pas nécessairement...
Donc,
ni,
pour vous, Ariel est une projection de certains aspects de Prospero.
Pour moi, Ariel, c'est une émanation, en effet, des pensées, de certaines pensées, des pensées conscientes de Prospero. C'est lui qui a machiné cette situation, ce naufrage, ce rassemblement d'êtres. Il a imaginé et son imagination est exercée par Ariel.
Mais si vous étiez metteur en scène, vous le montreriez tout de même.
Ah, il faut bien que je parle, que je s'exprime. Je ne sais pas trop comment, dans la tradition de la mise en scène de la trompette, on a résolu ce problème. Il faut en être apparemment androgyne, parce que les démons de l'air, comme les anges, n'ont pas de sexe. Il ne faut pas qu'ils soient... vieux, bien sûr, car il est l'éternelle jeunesse.
Et voilà. En même temps, nous savons qu'Ariel est un esclave qui attend sa liberté, ce que je vous trouve.
Il réclame. Oui. Il réclame sa liberté.
Et donc, il va l'obtenir après avoir machiné la défaite des méchants, des adversaires, comme on va le voir assez rapidement. Et nous passons maintenant à une autre scène où nous voyons les mêmes personnages.
Oui, absolument. Donc on a laissé à l'acte 3, on a laissé les personnages, toute ce qu'on va appeler la cour de Milan, sous le charme de la magie de Prospero, et comme hypnotisés. Et donc on va voir tout de suite le sort que Prospero leur réserve, et se réserve à lui-même par la même occasion. Mes témoins soyez-vous, elfes des collines, des ruisseaux, des étangs paisibles, des bosquets, et vous autres aussi qui, sans marquer le sable, pourchassez Neptune en reflux, mais vous enfuyez dès que la marée monte. Vous, mes gracieux pantins, qui tracez sous la lune ces cercles d'herbe que les brebis estiment trop amères. Vous qui aimez faire croître à minuit les champignons, heureux d'avoir enfin entendu sonner l'heure solennelle du couvre-feu. Fort de votre aide, aussi faible chacun soyez-vous, petit prince, j'ai éteint le soleil à midi. J'ai sommé la révolte des vents de porter la guerre et son fracas entre le bleu du ciel et la mer verte, mettant à feu les voix terribles du tonnerre, fendant de Jupiter le plus noueux des chaînes avec sa propre foudre, et secouant le promontoire le plus massif, et déracinant cèdres et pins. Les tombes sur mon ordre ont réveillé leurs morts, se sont ouvertes, les ont laissées sortir. Tel fut mon art si redoutable. Et pourtant, voyez-le, cette magie primaire, je l'abjure. Et quand j'aurai requis la musique du ciel, ce que je fais en cet instant, afin qu'elle plie sous le charme de ses arpèges leur sens à mon vouloir, je briserai ma baguette de magicien. Je l'enfouirai à des coudées sous terre. Et je noierai mon livre plus profond que ne peut atteindre aucune sonde. Musique solennelle. Entre d'abord Ariel, puis Alonso avec des gestes d'égarement, assisté par Gonzalo et suivi par Sébastien et Antonio, qui sont dans le même état et qu'assistent Adrien et Francisco. Tous entrent dans le cercle que Prospero a tracé sur le sol et demeurent là sous le charme. Ce que Prospero observe, avant de parler, qu'une solennelle musique, le grand remède de l'esprit qui s'égare, te guérisse, cerveau qui bout pour rien dans cette tête. Et vous, encore sous le charme, restez là, tous. Vertueux Gonzalo, homme d'honneur, mes yeux qu'émeut le spectacle des tiens versent les larmes de l'amitié. L'enchantement qui les retient se dissipe, et comme le matin pénètre la nuit pour en chasser les ténèbres, leur sens s'éveille, et la raison se lève dans ses fumées pour dissiper les fantasmes. Bon Gonzalo, toi qui fus mon salut et restas fidèle à ton Seigneur, je récompenserai dûment et en action autant qu'en parole tes services et ta vertu. Alonso, toi, c'est bien durement que tu nous traitas, ma fille et moi, assistés par ton frère, ce Sébastien que le remords tracasse, n'est-ce pas? Et toi, mon frère à moi, toi, ma chair et mon sang, mais qui as sacrifié à ton ambition les voies de la nature et de ta conscience, et avec Sébastien qui n'en souffre que davantage, aurait voulu tuer ton roi et ici même, toi, soit je te pardonne, aussi dénaturé sois-tu. Leur entendement s'accroît comme une marée monte, qui bientôt va recouvrir la plage de leur raison, boueuse pour l'instant, fétide. Mais aucun ne me regarde encore. Aucun d'entre eux ne me reconnaîtrait. Ariel, va dans ma chambre. Rapporte-moi mon chapeau, mon épée. Je veux me dépouiller de ce qui me cache. Je veux paraître comme jadis je fus, Milan lui-même. Fais vite, esprit. Avant qu'il soit longtemps, tu seras libre. Ariel chante en l'aidant à se vêtir. Là où l'abeille butine, là moi aussi je butine. Là où le coucou fleurit, cette clochette est mon lit. Je dors au cri de la chouette. À dos de chauve-souris, je poursuis l'esprit en fête, le bel été qui s'enfuit. Fête, fête sera ma vie, sous la branche toujours fleurie. Voilà bien mon charmant Ariel, tu me manqueras. Soit pourtant, tu vas être libre.
Une scène évidemment étonnante et qui va certainement vous permettre de, non pas d'approfondir, mais d'exposer l'approfondissement que vous avez donné à la conception qu'on peut avoir de la pièce et du personnage de Prospero. Ce dialogue entre la magie et le renoncement à la magie est tout à fait passionnant.
Oui, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que cette scène est en quelque sorte la scène finale de la pièce quand Prospero, apparemment maître de sa pensée et ayant réussi dans ses dessins, peut rassembler ses divers personnages et exercer son pardon tout en mariant sa fille. Mais ce qu'il faut ne pas oublier, c'est qu'il y a eu une scène absolument capitale antérieurement et qui a permis à Prospero de prendre conscience de sa profonde contradiction, celle qui va l'obliger à renoncer à la magie. Il a voulu marier sa fille avec Ferdinand, et ce qu'il attend d'elle, c'est qu'elle obéisse, qu'elle l'épouse, et qu'elle devienne reine à Naples, ce qui servirait tout à fait ses intérêts, puisque lui, tout de même, il veut remonter sur le trône qu'il a perdu. Et ce qu'il attend de sa fille, est-ce on peut dire l'expérience spirituelle, une chasteté qui serait presque comme mystique? Non, il attend d'elle tout simplement le comportement naturel d'une femme dans la société de cette époque, qu'elle épouse cet homme, qu'elle en ait beaucoup d'enfants et qu'elle soit l'épouse docile qui, lorsqu'il dira ceci ou cela, ne pourra faire que l'approuver. Ça apparaît dans une certaine scène de la pièce. Et pour continuer d'hypnotiser Miranda, il lui fait tout un discours moralisateur dans lequel il lui a dit qu'il faut absolument, et Ferdinand aussi d'ailleurs, qu'ils observent la chasteté la plus stricte jusqu'à ce que le mariage chrétien leur permette une autre sorte de vie. Ceci étant, donc, pour illustrer ce discours moral, il convoque ce que l'on appelle un masque, c'est-à-dire un certain nombre de figures allégoriques qui sont là, comme c'était le cas dans beaucoup de mariages princiers de l'époque, qui sont là, en somme, pour emblématiser les situations qui sont voulues par ceux qui agencent ce mariage, en particulier la moralité prévue. Et il y a donc Cérès, il y a différentes figures mythologiques qui paraissent et qui sont là pour, en quelque sorte, vanter la moralité comme Prospero l'entend, mais qui, bizarrement, abondent dans leurs paroles en allusions gaillardes d'une façon qui peut étonner le lecteur d'aujourd'hui, mais qui trouble Prospero lui-même. C'est pendant qu'il écoute le masque qu'il se souvient brusquement que Trinculo et Stefano veulent l'assassiner. Il a suivi l'action d'ailleurs, puisque par grâce à Ariel, il sait tout ce qui se passe. Il pâlit, il se trouble, il sombre. On va le voir entrer dans une véritable dépression, au sens moderne, contemporain du mot, avant que sa décision de renoncer à sa magie, c'est-à-dire à son ambition spirituelle, ne soit prise. Tout ce qui se passe, ce qui se passe dans cette scène, c'est une sorte de prise de conscience que fait Prospero, le roi. C'est un théâtre dans le théâtre, ce masque. Il y a des personnages mythologiques qui se parlent de façon goguenarde, tongue in cheek, comme ça, sur la scène. Et on se souvient qu'il y a un autre théâtre dans le théâtre, c'est dans Hamlet, où un roi de comédie fait apparaître au roi bien réel sa vilenie, lui démontre ce qui se passe de mauvais en lui, ce qui a été sa faute. De même que dans Hamlet, le théâtre dans le théâtre permet en quelque sorte une prise de conscience au roi, qui va d'ailleurs se mettre à genoux bientôt et prier le ciel de lui pardonner, sans que pour autant d'ailleurs il sente qu'il puisse l'obtenir vraiment, car il ne se repent pas tout à fait. Là je parle de Claudius dans Hamlet. Et bien de même dans La Tempête, ce théâtre dans le théâtre, cette mise en scène des contradictions de sa pensée, oblige Prospero à comprendre qu'il ne pourra pas être le véritable sujet de la sublimation, de la sagesse qu'il essaye d'atteindre. Et c'est pour cela qu'il renonce à sa magie, essayant de trouver dans l'autre morale, la morale chrétienne, la morale de l'amour, la possibilité d'un nouveau salut. Pourquoi y songe-t-il ? Eh bien, parce que le subplot, l'action secondaire, et qui est si chère à Shakespeare et qui apparaît si fortement dans Hamlet, le subplot a joué son rôle, qui est d'introduire dans la problématique de Prospero la pensée propre de Shakespeare. Qu'est-ce que c'est que ce subplot ? Eh bien, c'est ceci. Prospero a voulu que Miranda épouse Ferdinand. Il s'est arrangé pour les mettre en présence, etc. Mais ce qu'il n'a pas prévu, c'est que Miranda, au lieu de passivement obéir à son père dans ce projet d'épouser le prince napolitain, tombe amoureuse de Ferdinand d'une manière qui dépasse en elle toutes les catégories enseignées, les valeurs apprises, et Prospero constate cela. Il s'en étonne. Il voit en quelque sorte un sentiment d'amour qui ne fait pas partie de la théorie, si on peut dire, néo-platonicienne de la magie blanche, et cela le trouble, cela vient s'ajouter à sa prise de conscience de l'inconscient, c'est cela qui lui permet d'espérer que cet exemple d'une pensée autre va lui permettre de se ressourcer, de débarquer en quelque sorte dans une destinée de rechange. Simplement, je parle trop vite, bien entendu, parce que le temps manque pour examiner toutes les subtilités de la pièce. Simplement, c'est par la raison que Prospero essaye de devenir un être d'amour. Il pardonne théoriquement à son frère, au roi de Naples, mais on voit par le texte même que Shakespeare lui fait dire que les mauvaises pensées qu'il avait sont toujours là, présentes. Et comment la pièce va-t-elle finir? C'est le monde d'avant qui va recommencer exactement comme précédemment. En particulier, hélas, Miranda épousant Ferdinand va être embarquée dans la réalité comme elle est. Il y a une scène où on les voit jouer aux échecs et où se profilent toutes les démissions, toutes les petites tricheries de l'existence réelle. Shakespeare, en deux mots, démonte la conscience de soi factice, dans une large mesure, de Prospero, et il aborde la grande alternative qu'il a véritablement, lui, Shakespeare, vécu dans le conte d'hiver, c'est-à-dire le ressourcement de l'être humain dans sa finitude, et du coup, sa décision de fonder un monde par association avec son proche, mais l'artiste n'est pas quelqu'un qui est susceptible d'aller jusqu'au bout du renoncement à son art. Prospero reste celui qui ne peut que démissionner de sa magie sans pour autant devenir un être de plein pied avec les autres. On va rencontrer cela, je crois, dans la conclusion qui sera ce renoncement, cet épilogue.
Nous conclurons effectivement par l'épilogue, par l'épilogue qui est une expérience très difficile, mais auparavant, il y a une ou deux questions que j'aurais aimé aborder avec vous, plutôt sans moi. L'une, c'est celle de la musique, très présente ici dans cette pièce, comme très souvent dans d'autres pièces de Shakespeare, par allusion, mais toujours des allusions foudroyantes, qu'il s'agisse de la musique qui calme les cerveaux perturbés, ou encore le très beau texte que vous nous avez lu, qui est en quatrième couverture de l'édition pour le théâtre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce rôle de la musique dans la pièce, ou même en dehors de la pièce d'ailleurs?
Oui, en dehors de la pièce aussi bien que dans la pièce, parce qu'en fait, la musique fait partie du théâtre de la Renaissance d'une manière essentielle. Mais c'est une question bien difficile à laquelle je ne me sens pas en mesure de répondre bien. Je ne peux faire que quelques remarques. D'abord, la musique, Caliban l'écoute et l'entend, et même peut-être de façon plus profonde, plus émue que d'autres. Elle est entendue aussi par Ferdinand, elle est entendue par tous. L'île est pleine de bruit, de sons, de musique. Pourquoi en est-il ainsi? Est-ce que c'est ce que Prospero suscite ou bien ce que simplement il exploite? Je pense que cette musique dans la tempête, c'est en quelque sorte la réalité naturelle même quand elle est comprise poétiquement. L'île, qu'est-ce que c'est que cette île dans laquelle Prospero s'est retrouvé? C'est la réalité comme elle est, avec des animaux méchants, des ronces dont parle souvent Caliban, de l'eau douce mais aussi de l'eau salée, une fosse à Purin à côté de la hutte de Prospero. C'est le monde réel comme il est. Mais poétiquement, on peut vivre la réalité en entendant dans l'évidence des choses du monde naturel quelque chose comme une harmonie qui présage en quelque sorte une expérience de l'unité. Et c'est cette musique-là qui est disponible en somme à travers la pièce. Prospero l'emploie, mais elle est plus grande que lui. Et quand Caliban parle, quand il est en quelque sorte au plus vif de son possible, eh bien Caliban l'emploie aussi, et peut-être que c'est lui qui prononce, comme je le disais tout à l'heure, les paroles les plus musicales de la pièce. Tout cela pour vous dire qu'on s'embrouille assez facilement dans une réflexion sur la tempête quand elle est condensée dans nos limites de temps, et Dieu vous répond donc bien mal.
Pas du tout.
Bien
sûr. Il y a notamment en passant qu'il y a deux opéras qu'on ne donne jamais qui ont été inspirés par la tempête, au moins deux. L'un, c'est Purcell quelques décennies plus tard, encore au XVIIe siècle, et l'autre, c'est un opéra que l'Opéra de Paris devrait bien reprendre. C'est celui de Fromental à Lévy, le père de Madame Strauss. Donc, peut-être moins d'œuvres que Roméo et Juliette, par exemple, ou que Le Songe d'une été, alors que justement, c'était une œuvre tout à fait préparée pour la musique. Et alors, un autre aspect dont il faut absolument parler, c'est ce sur quoi vous avez écrit avec une grande profondeur et à plusieurs reprises, c'est-à-dire la traduction. Est-ce que vous souhaitez nous dire quelques mots sur cette question de la traduction à propos de la tempête ?
À propos de la tempête en particulier, peut-être pas. À propos de la traduction de Shakespeare, en général, oui, certes. Parce que, pour résumer d'un mot ce que j'ai essayé de dire de Shakespeare, c'est qu'il a voulu et pu faire rénover le théâtre par la parole de poésie. Ce sont des vers qui pénètrent des situations dramatiques, des grandes tragédies qu'il a écrites, et comme ce sont donc des vers, c'est-à-dire l'accession à une pensée plus directe et forte de la finitude, c'est ce qui permet de bouleverser les problématiques habituelles de la psychologie et donc d'accéder à de grandes situations de l'exister humain. C'est par exemple aussi d'ailleurs une façon de bouleverser les structures sociales. Une des plus grandes œuvres de Shakespeare, c'est Antoine et Cléopâtre, où l'on voit le vers comme tel porter la voix de Cléopâtre à la fin pour affirmer sa dignité de femme, non pas de reine d'Égypte, mais de femme spoliée non pas dans la situation présente, mais en général dans le rapport humain. La parole de poésie pénètre le théâtre pour en changer, pour en approfondir la nature. Et elle y pénètre par le vers, et elle y pénètre par le vers anglais, évidemment dans Shakespeare, c'est-à-dire l'iambe. Ce vers iambique, ce pentamètre iambique qui a ceci d'extraordinaire et que nous pouvons jalouser dans la poésie française, de passer directement de l'existence vécue à la parole écrite. L'iambe, c'est essentiellement la perception du temps fort dans les mots. Or, les mots de la langue anglaise sont accentués, ils portent un accent tonique. Et donc, dès la parole parlée, on peut, et par la vertu de l'accent qui se marque dans chaque mot, on est déjà en train d'entrer dans le vers, et très vite, tout de suite, dans les tragédies de Shakespeare, on passe naturellement donc de la prose au vers. En français, ce n'est pas du tout la même chose. Nous n'avons pas d'accent tonique. La forme nécessaire à l'écriture poétique va donc se fonder sur le nombre des syllabes dans le vers, et il faudra donc compter pour savoir que l'on est dans un vers, si l'on peut dire. Et du coup, entrer en poésie en français va être le fait d'une décision, d'une rupture. On passera de la parole existentielle ordinaire à une parole seconde, tout à fait le contraire en tout cas très différent de ce qui se passe dans la poésie anglaise. Alors, traduire Shakespeare en français, c'est précisément avoir à vivre cette situation de notre langue sans accent tonique pour rendre compte, en somme, dans notre texte, d'une parole qui va librement par le pentamètre de la situation de l'existence vécue vers celle que la poésie demande, c'est-à-dire de présence à présence des êtres dans leur situation de finitude. C'est parce que Shakespeare bénéficie du pentamètre iambique qu'il peut si facilement, en effet, passer de l'expérience du monde réel, comme il l'a vécu dans les chroniques, à ces situations plus intenses, plus essentielles, qu'il rencontre dans ses tragédies. À nous, traducteurs, d'essayer de revivre ce mouvement intérieur de l'œuvre, et bien entendu, ce n'est pas facile. Et on ne peut pas prétendre à y réussir. Ce qu'il faut faire, en tout cas, c'est assumer totalement le fait du vers comme tel, non pas traduire en prose, comme on l'a beaucoup fait, et on peut comprendre pourquoi, non pas non plus traduire dans des vers réguliers, avec des rythmes, etc., parce que c'est s'obliger à subir un texte sans pouvoir réagir du profond de soi à son encontre, ce qui est perdre de vue la source même de la création poétique. Il faut essayer, par un vers libre, de revivre en soi ces mouvements d'approbation de la réalité finie que le vers anglais permet de rencontrer beaucoup plus naturellement, me semble-t-il. Alors, donner priorité, voilà comment je comprends la traduction de Shakespeare, donner priorité à l'écriture du vers, à ses mouvements internes et intimes, à ses rythmes, à ce qui, dans les assonances, porte le corps même du traducteur au plan de sa parole, et puis c'est tout, ne pas penser que l'on pourra véritablement réussir. Ce que je puis ajouter, c'est que tenter cela, c'est une école de poésie, et c'est la traduction de Shakespeare, avec cette évidence de la parole ouverte, du pentamètre comme mouvement, traversant comme un soc les faits d'existence, que, pour ma part, j'ai pu apprendre beaucoup dans une tradition littéraire, poétique, dominée par des grandes formes fixes, comme celle de Racine ou d'Alfred de Vigny, ou même de Victor Hugo, qui secoue l'alexandrin sans jamais le casser. Shakespeare est une école de traduction aussi.
Merci beaucoup, et nous allons maintenant venir à l'épilogue.
Épilogue dit par Prospero, donc. J'ai renoncé tous mes charmes, et n'ai donc plus d'autres armes que ma pauvre humanité. Vais-je ici rester confiné par vous ? Pourrais-je partir pour Naples ? Veuillez souffrir, mon duché m'étant restitué, le traître étant pardonné, que je quitte ce banc de sable, et que vos mains secourables désenchevêtrent mes liens. Faites à mes voiles le bien de votre souffle, sinon mon projet ne fut rien de bon, qui ne voulait que vous plaire. Et il faut que je désespère, n'ayant plus ni magie ni art, s'il me manque aussi le rempart de la prière qui prime sur la justice et rédime par le pardon toute offense. Vous voulez, vous, cette indulgence, pour vos propres fautes, soit, mais d'abord délivrez-moi. »